Voilà, bonjour à tous. Avant de commencer le message, juste vous faire un petit retour de l'action Bible Impact qu'il y a eu hier. Donc, on vous présentera certainement des photos la semaine prochaine. Mais en attendant, donc hier, il y a eu deux impacts sur Strasbourg. Un dans le quartier Königshofen avec l'équipe du Lumignon et une autre équipe avec des jeunes et des moins jeunes sur le centre-ville où on a pu faire des chants gospel. Sur l'ensemble de la journée, 750 évangiles de Jean ont été distribués. 750 évangiles de Jean. Et on veut croire que Dieu est capable, au travers de sa parole, de libérer encore et d'amener des gens à lui faire confiance. Amen. Voilà, on poursuit ce matin avec notre thématique sur le combat spirituel. La semaine dernière, on a posé les fondements bibliques du combat spirituel du chrétien en regardant au fait que le monde spirituel mauvais, il est bien réel. Mais si ce dernier est bien réel, nous avons pu voir que sa puissance, elle est limitée parce que Christ a dépouillé Satan de sa puissance en triomphant de lui à la croix. Et que le combat pour le chrétien n'est pas tant un combat de puissance, mais un combat entre le mensonge et la vérité. Amen. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de série, on vous rappelle que tous les messages, l'intégralité des messages sont disponibles sur le site internet de l'EPI. Alors aujourd'hui, on va continuer notre lecture dans notre passage de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et on va se pencher sur la section qui parle de la panoplie, de l'ensemble de l'armure que Dieu a mis à notre disposition pour pouvoir résister aux assauts. Et avant d'entrer dans l'inventaire de l'équipement qui nous est fourni par Dieu, on peut juste attendre avant d'afficher le point, on peut déjà nous demander ce que l'ensemble de cet équipement nous dévoile des attaques de l'ennemi. Et ce sera mon premier point ce matin. Quand on regarde à l'équipement, ça nous révèle la façon dont l'ennemi nous attaque. Et mon premier point ce matin, c'est le suivant. Les assauts de l'ennemi contre le disciple de Jésus viennent de l'extérieur. Et on commence la lecture dans Éphésiens 6, 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. On l'avait lu la semaine dernière. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. L'ensemble de cet équipement décrit par Paul, casque, cuirasse, bouclier, épée, nous montre que les assauts de l'ennemi viennent de l'extérieur. Vous savez, si Satan et ses démons pouvaient entrer ou se trouver à l'intérieur du chrétien, du disciple de Jésus, alors l'ensemble de cet équipement n'aurait aucune utilité. Un casque, une cuirasse, un bouclier servent à protéger des zones vitales, servent à empêcher quelque chose de nous atteindre mortellement. Et c'est important de le mentionner car beaucoup d'idées circulent, comme le fait qu'un disciple de Jésus puisse être possédé d'un ou de plusieurs démons. Alors il est quand même important de nous pencher sur les termes bibliques qui décrivent l'activité démoniaque. Et le théologien Wayne Grudem va définir l'activité démoniaque et toute cette notion d'attaque spirituelle de cette façon. Il va dire « L'expression possession démoniaque est une expression malheureuse que l'on retrouve dans certaines traductions françaises de la Bible, mais qui ne rend pas vraiment compte du texte grec. » Le Nouveau Testament grec parle de personnes qui ont un démon. Et il y a des références bibliques que vous pourrez lire à la maison. Ou qui subissent une influence démoniaque. Et le terme grec, c'est « démonizomai ». Mais ils n'utilisent jamais le langage qui pourrait laisser penser qu'un démon possède réellement quelqu'un. Voilà pourquoi beaucoup parlent de démonisation. Et le terme « démonisation », ça permet de gérer les nuances dans l'emprise démoniaque et les degrés divers de l'influence du démon sur un individu. Alors, sous ce terme général de démonisation, on peut ranger les attaques dont sont l'objet à la fois les non-chrétiens et les chrétiens authentiques. La différence, elle réside dans l'intensité de l'emprise du démon. Mais le problème avec l'utilisation de ce mot, c'est qu'il ne permet pas de répondre à la question si un chrétien peut être habité par un démon. Et Alain Isus, qu'on a cité la semaine dernière, qui est le doyen de la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, et qui a écrit tout un traité de démonologie biblique, il explique et il écrit « La doctrine chrétienne du salut rend difficile la thèse de l'habitation d'un chrétien par un démon. Ceux qui affirment la démonisation du chrétien diminuent l'efficacité de l'expiation opérée par Christ. » On l'a vu la semaine dernière, Jésus a dépouillé les autorités de leur puissance. Ce n'est pas un combat de puissance, c'est un combat de vérité. Neil Anderson rappelle que quand le mensonge de Satan est dévoilé, son emprise, elle est brisée. Sa puissance, elle est brisée. En Actes 26, 18, lorsque Paul témoigne de sa rencontre avec le Christ, il nous laisse entendre que ceux qui sont en Christ sont passés de la puissance de Satan à celle de Dieu. Actes 26, 18, et il dit « Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. » Et là, c'est Jésus qui parle « Et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » C'est comme ça que Paul relate ce que Dieu lui a demandé dans ce passage. Passer de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, passer des ténèbres à la lumière. Et c'est également ce que Pierre va dire quand il parle des chrétiens dans 1 Pierre de 9. « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi. Vous êtes des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Une des caractéristiques de la lumière, c'est qu'elle chasse toujours les ténèbres. Dieu est en lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. Jean nous dira, voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Amen. Il est donc préférable de parler d'oppression ou d'obsession pour désigner l'influence ou l'emprise démoniaque qui peut être forte mais qui reste extérieure à un disciple de Jésus. On pourrait dire que, comme on a vu la semaine dernière, les premiers degrés, c'est la tentation. Satan essaye de nous tenter, il nous propose des raccourcis, etc. Quand on commence à donner vie à ces choses-là, à ces mensonges, et qu'on commence à s'installer dans cette routine, alors il y a des choses qui peuvent devenir comme des forteresses, des prisons. C'est ce qu'on appelle l'oppression, l'obsession. On est prisonnier, mais ces attaques viennent toujours de l'extérieur. Lorsqu'une personne vient à Jésus, lorsqu'elle confesse ses fautes, lorsqu'elle confesse peut-être les choses mauvaises qu'elle a pu vivre ou qu'elle a pu pratiquer, lorsqu'elle demande pardon, lorsqu'elle décide de suivre Jésus comme Seigneur, la Bible nous dit que Dieu vient habiter en nous par son Esprit. Et quand Dieu vient habiter avec sa lumière, les ténèbres ne peuvent résister. Jésus est celui qui libère. Alors vous allez me dire, mais moi j'ai déjà entendu parler, ou j'ai déjà peut-être même vu des croyants qui manifestent des signes de possession démoniaque. Alors laissez-moi aborder un sujet assez sensible, mais qui est vrai dans nos églises, c'est qu'il existe malheureusement des personnes qui fréquentent nos églises, qui ont expérimenté des choses avec Dieu, mais qui ne se sont jamais réellement abandonnées entre ses mains. Franck Alexandre dira, la religiosité ne donne pas une immunité contre les démons. La seule immunité valable est le rachat par le sang précieux de Jésus. C'est la seule barrière que le diable ne peut pas franchir. C'est la seule barrière que le diable ne peut pas franchir. Il y a un passage qui est assez éclairant sur ce qui peut arriver dans nos communautés. On voit ça dans le livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 8, on va lire les versets 12 à 13. Il y a Philippe l'évangéliste qui annonce l'évangile et on nous dit « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opérait. On voit ici un personnage, Simon. Quelques versets plus haut, au-dessus du texte qu'on vient de lire, nous apprenons que ce dernier exerçait la magie et que les gens étaient interpellés par la puissance qu'il exerçait. Mais lorsque l'évangile est annoncé là, dans la ville où il était, par l'intermédiaire de Philippe, nous voyons que ce Simon se tourne vers l'évangile, mais pour des mauvais motifs. Il se tourne vers l'évangile pour des motifs égoïstes. Pourquoi ? Il cherchait la puissance. Il n'est pas venu à Dieu parce qu'il se reconnaissait pécheur, il n'est pas venu à Dieu parce qu'il reconnaissait son besoin de pardon, mais il est venu à Dieu pour que la puissance de Dieu puisse lui rapporter quelque chose. Il vient devant Dieu avec des désirs égoïstes. Sa foi ne fut donc jamais authentique, même si le texte nous dit qu'il crut, mais il a cru pour de mauvaises raisons. Sa foi n'était pas authentique. Et on le voit bien parce que lorsque Pierre et Jean viennent, et qu'ils prient pour tous ces gens qui se sont convertis, ils prient pour que ces gens reçoivent la puissance du Saint-Esprit, soient remplis du Saint-Esprit, on voit que lui, il essaye d'acheter la puissance de Dieu. On voit ça dans Actes 8, 18 à 22. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains, il y a beaucoup de « je » dans sa phrase, reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi. » Ça ferait bizarre si un pasteur disait ça à quelqu'un. « Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible. Car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Regardez ce que Pierre lui dit. Que ton argent périsse avec toi. Périr, c'est apoloia en grec, qui nous parle de destruction et de perdition. Selon l'apôtre, le magicien est encore dans les liens de l'iniquité. C'est-à-dire, il est toujours enchaîné dans l'injustice. Le terme grec, c'est syndesmon adikias. Et ce langage fait écho au thème de l'esclavage du péché et à la condition de l'homme sans Dieu. La condition de l'homme sans Dieu. C'est pourquoi Pierre va lui demander de se repentir, c'est-à-dire faire demi-tour à son style de vie, à chercher Dieu, pas pour ce qu'il peut lui rapporter, mais parce qu'il a besoin de sa grâce. La prière. Le verset qui suivra nous montrera que même lui va refuser de prier, il va leur dire « Priez pour moi ». Il va demander aux autres de le faire. Et ça m'amène à un point qu'on voit lorsqu'on reçoit des gens en entretien. Il nous arrive souvent de voir des personnes qui sont liées par toutes sortes de choses, qui sont victimes, qui sont liées par des vices, pardon, qui sont enfermées dans des passions aliénantes, qui viennent à nous pour que nous prions afin qu'elles puissent être soulagées. Et on se rend bien compte souvent qu'il arrive que des personnes viennent à nous pour être soulagées, mais pas pour que leur style de vie change. Ils veulent juste se sentir mieux. Elles veulent être libérées des effets ou des conséquences du péché, mais pas du péché lui-même. Il y a quelque part une passion qui est là pour le péché, quelque chose qu'on aime, un attrait dans le péché. Et ces gens viennent juste pour dire « Je ne veux pas la conséquence que le péché entraîne sur ma vie ou engendre sur ma vie. » Ce n'est pas de délivrance qu'elles ont besoin, c'est de repentance. Ces personnes qui viennent, ce n'est pas de délivrance qu'elles ont besoin uniquement, mais elles ont besoin de repentance, de faire demi-tour. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un fréquente l'Église, ou même qu'il a été baptisé, comme on l'a vu dans notre passage, qu'il est forcément un disciple de Jésus. Certains peuvent venir à Jésus pour de mauvais motifs, mais n'ont pas laissé Jésus être aux commandes de leur vie. Et je dis souvent cette phrase de Gaëtan Brassard, « Où Jésus est le Seigneur de tout, ou il n'est pas le Seigneur du tout. » Voilà pourquoi, dans certains cas extrêmes, Nous pouvons voir des gens qui nous que nous croyons disciples de Jésus manifester aussi des signes de possession démoniaque. Alors cela étant dit, je ne veux pas faire peur ce matin. Je ne suis pas en train de parler là de gens qui bataillent avec des péchés, mais qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont en lutte. Je parle de gens qui viennent avec un état de cœur, ils viennent à Christ pour de mauvais motifs. Et il faut faire la nuance. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment en bataille et en lutte, mais qui veulent s'en sortir et qui dépendent de la grâce de Jésus. Alors ce n'est pas de ces gens-là que je suis en train de parler quand on parle de gens qui ne sont pas sauvés. Mais on parle de gens qui sont venus à Christ pour de mauvais motifs ou qui veulent finalement pas servir Jésus, mais se servir de Jésus pour ce qu'il peut leur apporter. Alors pour résumer, le croyant peut être victime d'attaques extérieures du diable et recevoir des coups infligés par Satan ou ses anges. On le voit avec le livre de Job qui nous raconte comment un disciple du Seigneur, du roi des rois, de Yahweh, est attaqué dans son corps, sa famille, il y a des morts, etc. Il subit des attaques de l'ennemi, on sait pourquoi en lisant le texte. On voit aussi des personnages dans l'évangile qui sont attaqués, et même le grand apôtre Paul, à qui on a permis à Satan de souffleter dans sa chair. Donc des attaques extérieures, elles peuvent arriver. Alain Anisus décrira les oppressions ou les afflictions de la manière suivante. Le diable nous incite à faire le mal, mais il se plaît à faire aussi du mal aux humains, de manière directe ou indirecte. Des maladies, accidents, incidents fâcheux, catastrophes qui surviennent dans notre vie peuvent être son œuvre. Et je réponds à une autre question tout de suite. Est-ce que cela veut dire que toutes les maladies sont d'origine démoniaque? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non.
Des bons élèves ce matin. Les évangiles nous montrent que dans les cas de maladies ordinaires, Jésus guérissait les malades. Et lorsque la maladie était d'origine démoniaque, il chassait l'esprit. Matthieu 9, 32-33 nous dit « Comme il s'en allait, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. » Et la foule était étonnée en disant « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Dans Luc 14, un autre exemple. « Or un homme rempli d'œdème se trouvait devant lui. Jésus prit la parole et dit aux professeurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ? Ils gardèrent le silence. Alors Jésus toucha le malade, le guérit et le renvoya. » Donc on voit plusieurs cas de figure. Attention à nos associations malheureuses. Quelques années en arrière, quand j'étais sur l'église de Colmar, mon premier pasteur formateur me racontait l'histoire quand il était dans une autre ville, où il y a une famille où il y avait quelqu'un qui était diagnostiqué schizophrène. Et toute cette famille-là a dit « on quitte l'église parce qu'il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de puissance ». Et puis il y avait une église où il y avait un prophète autoproclamé qui avait ouvert son centre et puis qui lui chassait les démons de tout. Bien sûr, ils ont quitté l'église toute la famille. Tout le monde a essayé de chasser le démon de schizophrénie de cet homme. Finalement, ce gars est toujours malade. Toute la famille a abandonné l'évangile et lui, il est retourné à l'église d'origine. Toute sa famille qui pensait qu'il n'y avait pas d'onction dans l'église où ils étaient, ben eux, ils ont quitté le Seigneur. Par contre, lui, le malade, ben il s'attend toujours à Dieu, il est revenu dans son église d'origine. Des fois, ce n'est pas de délivrance qu'on a besoin, c'est de guérison. Et là, il n'y a que Dieu qui est capable de faire quelque chose. C'est un sujet sensible parce que c'est souvent difficile de faire la différence entre ce qui est maladie et ce qui est attaque. Et voilà pourquoi, en tant que disciple de Jésus, on a besoin de se tenir devant lui pour être conduit par le Saint-Esprit. Parce qu'on a trop vu de gens qui se sont pris pour des apprentis sorciers sur des gens et ils ont fait plus de dégâts qu'autre chose. Et ça peut même carrément créer des doutes dans la foi des personnes. Mais Dieu ne veut pas me libérer, Dieu ne veut pas me... Je crois qu'il est important, frères et sœurs, de ne pas faire n'importe quoi. Mais de s'appuyer, de compter sur la grâce de Dieu, chercher la face de Dieu pour être sensible à ce qui se passe dans la vie des uns et des autres. Mon deuxième point ce matin, pour tenir face aux assauts, nous devons nous saisir, nous revêtir et nous servir des armes mises à notre disposition. On relit ces versets 14 à 17. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il y a une nécessité pour le croyant de s'approprier la pleine armure de Dieu en la saisissant et en la revêtant. Dans l'ensemble de notre passage étudié, que ce soit aujourd'hui et la semaine dernière, Paul nous dit de nous fortifier dans le Seigneur, Éphésiens 6:10, de nous revêtir des armes de Dieu et de toujours les avoir avec nous, versets 11 et 13, de toujours tenir ferme, verset 14, et de prier en tout temps avec persévérance, verset 18. On voit ici clairement qu'il y a un effort à produire, qu'il y a une vigilance à avoir et qu'il y a un sérieux à maintenir pour ne pas nous faire avoir. Pierre dit dans son épître que notre ennemi est tel un lion qui rugit. On avait fait la démonstration la semaine dernière de ce lion enchaîné avec Pierre Samuel qui jouait le rôle du pas gentil. Et comment il cherche à rugir pour nous faire camper de la position que nous avons en Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et par ses mensonges, Satan cherche à nous décaler de notre position pour nous prendre et pour nous tenir. Il y a un sérieux à avoir dans notre relation à Christ pour tenir ferme, pour résister. Ceinture, cuirasse et chaussures ne quittaient jamais les soldats sur le champ de bataille. Le bouclier, le casque et l'épée étaient gardés à portée de main, prêts à l'emploi. Ça me rappelle mes années où je faisais du maintien de l'ordre, où on était toujours en tenue. Alors on pouvait avoir le casque sur le bras et le tonfa rangé, en attendant de voir ce qui se passait. Mais on était en tenue, on était prêts. S'il y avait un mouvement de foule, les boucliers étaient sortis, les flashballs étaient sortis, et tout le reste. Le bouclier, le casque et l'épée étaient gardés à portée de main, prêtes à l'emploi. Paul nous invite à avoir la vérité pour ceinture. John MacArthur nous explique qu'à l'époque, le soldat portait une tunique faite d'un tissu ample. Les luttes se déroulaient souvent au corps à corps, et une tunique ample, elle constituait une gêne, et même un danger pour celui qui en portait une. Il fallait donc porter une ceinture pour resserrer le tissu contre soi. On rassemblait tous les pans de la tenue pour se tenir prêt au combat. On a vu la semaine dernière que la vérité, c'est ce que Dieu déclare dans sa parole. Nous sommes donc invités à serrer la vérité de la parole de Dieu pour nous protéger des assauts de l'ennemi, parce qu'il est un menteur. Nous devons donc nous placer notre confiance dans la vérité révélée de Christ afin d'agir en conséquence. Vous savez, nos pensées qui nous influencent, le fruit de nos cogitations. Est-ce que ça vous arrive pas de temps en temps d'être tellement être pris dans vos pensées, vos cogitations, que ça vous empêche même de dormir? Parce qu'on est pris dans nos pensées. Qu'est-ce qui va se passer si? Et puis on cherche toutes sortes de choses et finalement on se pourrit la vie. Nos pensées nous influencent, nos cogitations, elles sont là comme peut-être ce pan de robe dans lesquels on risque de se prendre les pieds si on ne reste pas avec la ceinture de la vérité pour maintenir nos pensées dans l'obéissance de Christ, d'amener toutes ces pensées captives à l'obéissance de Christ. Nous avons besoin que nos pensées soient ceinturées par la vérité de Jésus pour ne pas se prendre les pieds dans le pan de la robe. On a besoin de tenir notre armure au plus près. John Stott dira « La ceinture du soldat était généralement en cuir et appartenait plutôt à ses sous-vêtements qu'à l'armure proprement dite. Mais c'était une pièce essentielle qui ajustait la tunique, on vient de le voir, autour de la taille, mais aussi qui maintenait l'épée. » La relation entre la ceinture et l'épée nous rappelle que notre force est dans la parole de Dieu qui est la vérité. C'est la vérité de l'Écriture reçue et vécue avec droiture qui nous rend forts pour le combat spirituel. D'ailleurs, le mot grec makera, traduit par épée, ça parle, c'est pas vraiment une épée, mais plutôt un glaive. Et un glaive, c'était une petite épée, on va dire, entre 15 et 45 centimètres. Ça nous parle de combat rapproché. Ça nous parle d'un ennemi qui se tient jamais très loin de nous. Lors de la tentation, on l'a vu la semaine dernière aussi dans le désert, pour Jésus, Satan s'est tenu au plus près de Jésus au moment où Jésus était le plus vulnérable. Mais c'est par la proclamation de la parole que Jésus a repoussé les assauts de Satan. Les mensonges, les fausses promesses et les séductions, les tentations de l'ennemi ne peuvent être neutralisées que par la proclamation de la vérité sur nos vies. Lorsque Satan essaie de te condamner à cause de ton passé, rappelle-lui son avenir. Quand il essaye de te condamner avec ton passé à ressortir les vieux dossiers dans les vieux tiroirs de ta vie, rappelle-lui que Christ a payé pour ça, mais que lui, son heure, elle est comptée. Parce que c'est ce que la parole de la vérité déclare. Paul nous parle également de cuirasse de la justice. Et là, John MacArthur explique que la cuirasse que portaient les soldats romains était souvent faite de cuir ou de tissu épais sur lequel étaient cousues plusieurs tranches de sabots, de cornes d'animaux ou de métal, et ces pièces se chevauchaient. Certaines sont faites de grandes feuilles de métal coulées ou martelées à la forme du corps. La raison d'être de la cuirasse est évidente, protéger le cœur et les organes vitaux. Satan veut attaquer notre cœur. Satan veut attaquer le siège de nos pensées, le siège de nos actions. La justice de Dieu nous assure la protection de Dieu, de Christ et de son soutien. Il nous approuve parce qu'il nous aime et qu'il a envoyé son Fils Jésus pour mourir à notre place. Nous sommes déclarés justes, non à cause de nos bonnes actions ou des œuvres que nous pourrions faire, mais à cause de la vie de Jésus offerte à la croix en échange de nos fautes et de nos péchés. Si tu as placé ta confiance dans le sang que Jésus a versé pour ta vie, alors la Bible dit que tu es déclaré juste, que tu es justifié, et les attaques de Satan ne peuvent avoir de triomphe sur toi. Mais tu as besoin de croire à la justice que Dieu t'a donnée. Ce n'est pas à cause de toi ou de tes bonnes œuvres que tu es en paix avec le Christ. C'est à cause de ce que Jésus a fait à la croix pour toi. Paul parle ensuite de chaussures. Les bottes que portaient les soldats romains étaient munies de clous pour les empêcher de glisser pendant le combat. L'évangile de paix rappelle la bonne nouvelle. En Christ, les croyants acquièrent la paix avec lui, la paix avec Dieu et la certitude qu'il est à leur côté. Cette ferme assurance peut nous permettre de tenir bon et de savoir que puisque nous sommes en paix avec Dieu, il sera notre force qui nous empêchera de glisser ou de tomber. Dans les doutes et dans les craintes, lorsque le terrain de notre vie commence à être instable, cette sécurité de l'évangile de paix, de cette bonne nouvelle, et cette force que l'évangile, que les chaussures de l'évangile nous donnent, nous motive à annoncer avec persévérance à ceux qui nous entourent la paix que procure l'évangile. Amen. Il y a toutes sortes de gens qui sont maintenus dans des prisons autour de vous. Et Dieu veut vous communiquer cette passion pour à être motivé pour leur annoncer qu'il existe autre chose. Qu'il y a une paix surnaturelle en Christ, qu'il y a un espoir au-delà du désespoir, que Jésus est celui qui communique la vie, la paix en abondance. Amen. Est-ce que c'est ce que vous vivez? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent la paix de Dieu au-delà des circonstances dans ce lieu? Amen. Moi, j'en ai deux, trois là-bas. Merci pour vous. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu te sens ce matin condamné, si tu te sens accusé, si tu te sens coupable, tu peux venir à Jésus parce qu'il est celui qui veut te donner sa paix, il est celui qui veut faire taire les voix de l'accusation pour que tu puisses marcher libre de ton passé et libre de l'influence que le passé peut avoir sur ta vie. Paul poursuit ensuite avec le bouclier de la foi, c'est-à-dire la confiance dans les promesses et dans la fidélité de Dieu. Ce bouclier, ici, décrit un mot grec qui parlait d'un bouclier grand de 1,50 m et large de 80 cm, qui était conçu pour protéger le corps tout entier. MacArthur ajoutera que la foi persévérante dans la parole et les promesses de Dieu, c'est indispensable. C'est le par-dessus tout. Par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi. Si on veut être protégé des tentations de toutes sortes, et comme on l'a vu en détail la semaine dernière, on pêche lorsque l'on se laisse piéger par les mensonges de Satan, par les plaisirs qu'il promet, qui viennent mettre en doute la réalité des promesses de Dieu sur notre vie. À partir du moment où on donne du crédit à ces tentations qui arrivent, en disant que ce que Satan me propose est meilleur que ce que Dieu a déclaré, alors nous tombons dans le piège, nous manquons le but. Et c'est une des définitions du péché. Passer à côté du plan parfait de Dieu pour ta vie. Au lieu de faire le bon choix, au lieu d'obéir, au lieu de nous attendre à Dieu, nous écoutons la séduction et la tentation. Et nous passons à côté de ce que Dieu a prévu pour nous, des bénédictions qui en résultent. J'ai terminé cette liste avec le casque du salut, puisque nous avons déjà évoqué l'épée de la parole de Dieu juste avant. La protection du chrétien au niveau de sa tête, au niveau de ses pensées, c'est l'assurance du salut. Certains chrétiens, malheureusement, pensent être sauvés aujourd'hui, perdus demain, en fonction des variations de leur vie chrétienne et de leur lutte et de leur chute. On se dit aujourd'hui, j'ai bien servi, je suis sauvé. Puis demain, je vais me planter à la main, c'est ce que le Seigneur va me pardonner. Et ils sont constamment en train de faire le yo-yo. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas un yo-yo. On l'a dit tout à l'heure, il y a des chrétiens qui sont en lutte, qui sont en combat, mais qui s'attendent à Jésus. La certitude de ton salut ne dépend pas de toi, elle dépend de ce que Jésus a accompli pour toi. Nous avons une sécurité dans le salut que Dieu nous a accordé, que Dieu nous accorde. Tu n'es pas sauvé aujourd'hui, pas sauvé demain. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de qui ? Nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est un cadeau immérité. Tu ne peux rien faire de plus pour que Dieu t'aime plus. Ça doit nous encourager ce matin. Lorsque tout va bien, c'est sa grâce qui nous maintient. Dans les moments difficiles, dans les moments de doute, c'est sa grâce qui nous soutient. Quand tout va bien, la grâce nous maintient. Quand ça va moins bien, la grâce nous soutient. L'amour de Dieu nous suit. L'amour de Dieu nous poursuit parce qu'il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu qui nous aime. Il a montré son amour en offrant sa vie à la croix parce que tu avais de la valeur à ses yeux. Il y en a quelques-uns qui le croient ce matin. Nous avons de la valeur à ses yeux. Il veut agir. Enfin, Paul nous invite à prier par l'Esprit. Cela signifie rechercher la face de Dieu. Ça signifie lui demander de conduire nos vies, de nous diriger au quotidien, de nous révéler quelles armes employer en fonction des situations que nous pouvons traverser. Les armes décrites ne sont pas des méthodes ou des techniques miracles. Certains vont dire, ah ben là, il faut que je prenne ça, c'est telle arme, et puis là, c'est telle arme, et puis là, c'est telle arme. Non, tu as besoin de chercher Dieu. Tu as besoin de chercher Dieu pour que lui te révèle ce que tu as besoin. On a vu l'histoire avec Josué il y a quelques temps en arrière, où ils ont combattu d'une certaine façon, puis après ils ont voulu dupliquer, sauf que c'était pas le même combat. On ne peut pas prendre la Bible et dire, voilà, c'est une recette de cuisine dans laquelle je viens taper pour agir en fonction de telle ou telle circonstance. Non, tu as besoin de marcher par l'Esprit, tu as besoin de laisser conduire par Dieu. Les armes spirituelles décrites dans Éphésiens sont des qualités spirituelles qui se développent dans la proximité avec Dieu. Le pasteur Thibault Lavigne, qui est pasteur à Antibes, qui est docteur en théologie des assemblées de Dieu, il écrit dans son commentaire de la lettre aux Éphésiens, « Un tel adversaire, pour un tel combat surnaturel, nous rend dépendants de Dieu. » C'est ce qui exprime le recours à la prière comme le couronnement de la lutte, le moyen par lequel toutes les armes sont rendues efficaces. Ne croyez pas qu'on peut partir au combat sans prier. On ne peut pas partir au combat sans prier. On ne peut pas dire, ben là je vais proclamer tel verset et puis c'est fait. Je proclame que, et puis Dieu il fait le reste. Tu as besoin de t'appuyer sur la grâce de Dieu. Tu as besoin d'être rempli de son esprit. Tu as besoin d'être vivifié ce matin par son esprit pour combattre et tenir ferme. Prier, ce n'est pas chercher à plier Dieu à ma volonté, mais c'est le laisser modeler ma volonté à la sienne. Ce matin, on a entendu un don spirituel qui parlait dans ce sens. On a besoin que ce soit lui qui soit aux commandes. On a besoin que ce soit lui qui nous dirige. Dieu n'est pas un distributeur automatique auquel tu viens quand tu as un besoin. Tu as besoin de t'appuyer sur Jésus au quotidien. Tu as besoin de sa grâce pour tenir ferme, pour triompher. Tu as besoin de dire, mais Seigneur, c'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu as décidé dans cette situation? Et te laisser modeler et façonner par lui. Chercher Dieu, c'est aligner mes pensées sur les siennes pour combattre, pour lutter, pour affronter l'adversité sous l'angle d'approche de Dieu afin de ne pas te faire renverser. MacArthur dira, lorsque le combat s'intensifie, les soldats peuvent facilement être fatigués, faiblir et se décourager. Dans le combat contre Satan, on prie ou on plie. Dans le combat contre Satan, on prie ou on plie. Paul nous invite dans ce passage aussi à prier pour tous les saints, c'est-à-dire à prier pour les frères et sœurs. On a besoin de se porter les uns les autres dans la prière. On a besoin de se rendre vulnérable sur les combats qu'on vit. Parce que tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Mais Dieu a mis à côté de nous des frères et des sœurs qui vont être dans la bataille de la prière avec nous pour triompher ensemble. Il y a des gens qui sont complètement captifs de certaines situations de vie dans lesquelles tu te caches et que tu n'oses pas parler. Mais plus tu vas t'enfermer dans ce mensonge de vie, plus tu vas être prisonnier. La Bible nous dit que la vérité rend libre. Jacques nous dit que si on confesse nos péchés, on a besoin de confesser nos péchés les uns aux autres pour être guéri, pour être délivré, pour être libéré. Tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui n'est pas amené à la lumière de Christ est une emprise dans laquelle Satan te tient. On a besoin de prier pour les uns pour les autres. Et puis ça se trouve, tu vas te confier à quelqu'un qui est passé par la même bataille que toi. Et qui, lui, a vécu quelque chose avec Dieu, peut-être avec les gens avec qui il s'est confié, il va pouvoir être un relais pour toi. Tout ce qui est dans l'obscurité, on ne peut pas en être délivré. On a besoin d'amener les choses à la lumière. C'est la vérité qui vous affranchira. Amen. Dernier point ce matin. Pour résister, nous devons revoir nos priorités. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. Soyons un peu honnêtes ce matin, quelques minutes. Combien de temps consacrons-nous de temps à la présence de Dieu dans nos vies chaque jour? Combien de temps accordons-nous à Dieu? Vous savez, on pleure parfois d'être vaincu, mais on n'a même pas combattu. On pleure d'être vaincu, mais on n'a pas combattu. On va regarder quelques obstacles à la prière, à cette vie de communion avec Dieu, cette vie de relation avec Dieu et sa parole. Il peut y avoir, par exemple, ne plus croire en la prière. Ne pas prier, vous savez, c'est avouer que nous n'avons pas confiance en Dieu. Peut-être nous ne croyons plus en l'efficacité de la prière ou le fait qu'elle soit importante aux yeux de Dieu. Un autre problème, c'est celui de nos priorités, on l'a vu dans le titre. Le temps que nous passons à faire les choses révèle nos priorités. Si on veut faire de la prière une priorité, on doit revoir ce qui était jusque-là nos priorités. Si on faisait un sondage ce matin, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous demander de vous livrer. Est-ce qu'on passe plus de temps avec Netflix ou avec Jésus? Soyons honnêtes, calculez votre semaine. Combien de temps vous passez avec Netflix et combien de temps vous passez avec Jésus? Je vous laisse entre vous et Dieu pour réfléchir à ça. Vous savez, il faut savoir ce qu'on veut. PS et l'équipe de prière nous ont dit, il y a un projet qui est là devant nous. Est-ce qu'on va se tenir devant Dieu pour que nos pensées soient alignées aux siennes? PS l'a dit, oui, on veut prier tous ensemble pour que Dieu soit avec nous, mais on veut surtout prier pour que nos pensées soient alignées à son plan. et que son plan puisse s'exécuter au travers de nous, que nous soyons malléables entre ses mains. Ensuite, un autre voleur de temps, c'est l'activisme ambiant. Stéphanie Rieder, qui est pasteur à l'église Nouvelle Vie au Québec, elle a rédigé un article que j'avais lu il y a longtemps dans un magazine Nouvelle Vie, c'était en automne 2009. C'était un article à destination des femmes, mais messieurs, rassurez-vous, on en a à prendre à l'intérieur. Et elle disait, nous luttons quotidiennement pour concilier notre travail, notre carrière, notre mariage, l'éducation des enfants, les pressions financières, nos émotions, notre désir de servir Dieu, notre relation avec Dieu et les centaines d'autres demandes urgentes qui nous sont faites. Et elle dit, trop souvent, nous nous laissons emporter par le tourbillon de la vie, oubliant parfois qui nous sommes et peut-être même qui il est. Et notre réaction à l'activisme doit être celle qui a été mise en pratique par Stéphanie. Et elle disait la chose suivante, plus je suis occupé, plus je dois prier. Lorsque je mis ce principe en action dans ma vie, je constatais à maintes reprises que Dieu multipliait mon temps, qu'il m'inspirait, qu'il me dirigeait et qu'il me donnait des idées et renouvelait mes forces. Chercher Dieu ne sera jamais une perte de temps. Chercher la face de Jésus ne sera jamais une perte de temps, mais un gain. Parce qu'il y a plein d'erreurs que tu risques d'éviter. Parce que Dieu t'aura conduit directement là où il veut que tu sois. Un autre piège, c'est le bruit qui nous entoure. Il est difficile aujourd'hui de trouver un endroit calme. D'ailleurs, la plupart des gens sont angoissés par l'idée du calme. Il y a des gens qui ont horreur d'être tout seul à la maison, sans bruit, sans rien. Pourtant, on a besoin de réapprendre le silence et le calme, parce que Jésus se retirait dans les déserts pour chercher le cœur de Dieu. Si notre Sauveur avait besoin de se retirer dans le désert pour chercher la face de Dieu, nous avons besoin de nous retirer et prendre du temps. Et enfin, il y a le péché, bien sûr. La prière nous éloigne du péché, mais le péché nous éloigne de la prière. Mathieu Giralt, qui est professeur à l'Institut biblique de Genève, il dit que la paresse d'abord peut nous éloigner de la prière. Ensuite, un sentiment de culpabilité peut nous éloigner de la prière, pensant que nous devons être en règle avant de nous présenter devant Dieu. Mais il n'y a qu'en nous présentant devant Dieu que nous pouvons être en règle avec lui. On l'a dit la semaine dernière, mais l'ennemi va tout faire pour vous empêcher de vous approcher de Dieu lorsque vous avez chuté. Parce qu'il sait très bien. Il sait très bien que lorsque vous allez revenir de tout votre cœur, Jésus veut vous accueillir dans ses bras. Il veut vous entourer de sa grâce. Il veut vous restaurer, il veut vous relever et enlever ce poids de culpabilité qui peut être là. On a besoin de se tenir devant Dieu. Je vais inviter le groupe à s'approcher. On va conclure ce matin. Le but de cette série, c'était de nous faire réaliser l'enjeu spirituel qui est autour de nous. Notre monde matérialiste peut nous faire souvent oublier que l'ennemi agit en coulisses pour nous endormir et pour qu'on se relâche. Je crois que cette série de messages est là pour être comme un électrochoc. Nous sommes au cœur d'une bataille spirituelle. Mais cette bataille a été remportée par Christ et nous devons marcher dans la victoire que Christ a acquise pour nous. Je crois ce matin qu'il y a peut-être des gens qui se croyaient chrétiens, mais qui se rendent compte que Jésus les appelle ce matin encore à s'engager avec lui. Que Jésus les appelle à marcher après lui. Peut-être que ce matin tu réalises que tu as besoin de son pardon. Parce que ta vie est souillée par ton péché, parce que tu as manqué le but, parce que tu as douté de Dieu. Tu te rends peut-être compte ce matin que ce n'est pas la religiosité qui sauve, mais c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui veut te sauver. Peut-être pour d'autres, au contraire, tu as besoin d'être sécurisé dans le fait que Christ a déjà tout accompli pour toi. Et que les mensonges de Satan ne cherchent qu'à te détourner de la paix que Jésus t'a donnée. Ne cherchent qu'à te voler que la paix que Jésus a acquise à la croix pour toi. D'autres encore ont besoin de proclamer la vérité et les promesses de Dieu dans leur situation pour résister aux séductions que Satan te propose. Peut-être tu es un jeune homme, une jeune fille. Tu sais que Dieu a promis un avenir pour toi sentimental. Et pourtant, tu es là face à un choix. Ça tarde, alors tu souhaites entrer en relation peut-être avec quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, le Seigneur t'invite à lui faire confiance et à réfléchir. Il y a des situations qui peuvent être destructives pour nos vies. Et je crois qu'il est important de ne pas choisir les chemins, les raccourcis, de ne pas choisir la facilité. Appuie-toi sur les promesses de ton Dieu qui est fidèle. Les promesses de Dieu sont oui et certaines. Les promesses de Dieu sont oui et certaines. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi qui cherche à te ramener sous son giron. Dieu est fidèle dans ses promesses. Dieu est fidèle pour ton entreprise. Il faut en vrai chercher des raccourcis, peut-être gruger sur certaines choses. Le Seigneur t'invite au défi de l'intégrité. Sois fidèle et tu verras la fidélité de ton Dieu dans ton entreprise. Il est le Dieu qui nous appelle à des choix ce matin. À opposer les mensonges de Satan en proclamant la vérité et les promesses de Dieu qu'il a faites sur ta vie. Et enfin, je crois qu'il y a un appel pour chacun d'entre nous, l'Église de notre génération. Je crois qu'il y a un cri du cœur pour un retour de chacun d'entre nous à la présence de Dieu. Je crois que l'Église du 21e siècle, elle n'a jamais été autant détournée de la présence de Dieu. Il y a toutes sortes de choses qui nous sont proposées pour pas qu'on prenne le temps de la présence de Dieu. Je crois qu'il y a un cri sur le cœur de Dieu ce matin, pour que l'Église se tienne sur ses genoux, pour que l'Église cherche la face de Dieu. Et nous verrons la grâce et la gloire de Dieu se manifester. Mais il y a un cri du cœur. Qu'est-ce qui vient voler ton temps? Qu'est-ce qui vient voler ton temps dans la présence de Dieu? Il nous appelle ce matin à rechercher et à nouveau aligner nos pensées sur les siennes. Je vais finir avec cette phrase ce matin. Tout est à notre disposition. Tout est à notre disposition. Mais quel choix allons-nous faire? La victoire a été acquise par Christ à la croix. Il a dépouillé les autorités de leur puissance. Les armes de Christ nous ont été données. Qu'attendons-nous pour nous en emparer? Qu'attendons-nous pour nous en emparer? On va laisser le groupe nous conduire dans un temps encore. Et que ça puisse être un temps où on répond personnellement à l'appel et au cri du cœur de Dieu ce matin. La semaine dernière, on a pris du temps pour prier pour les gens, mais là, ce matin, les armes, elles sont à notre disposition. Donc c'est à nous de nous positionner ce matin, en fonction des appels qui ont été faits. Peut-être se mettre debout à sa place en fonction de ce que toi, tu as vécu et entendu. Et dire, Seigneur, je réponds à ton appel ce matin. Il est le Dieu fidèle qui sauve encore aujourd'hui, qui relève les captifs, qui libère, et qui veut amener sa vie au milieu de l'épi. Alors si c'est ton cas ce matin, mets-toi debout à ta place. Mets-toi debout à ta place pour dire, Seigneur, j'ai entendu ton appel et je veux répondre à ton appel.